7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Raphaël Constant.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale des animaux, nous parlons des conflits entre humains et faune sauvage. Comment cohabiter? Alors que nous allons passer le cap des 8 milliards d'humains selon les projections de l'ONU, les tensions autour des ressources naturelles s'accentuent. Conversion des terres de pâturage en surface habitable, pollution, déforestation, changement climatique, l'habitat naturel des espèces animales est sans cesse réduit. Les animaux sont donc obligés de se rapprocher de l'homme en quête d'eau et de nourriture. Attaques de bétail ou de villages, récoltes dévastées, les conséquences pour les communautés locales peuvent être désastreuses. Alors comment apaiser les tensions pour la survie de nombreuses espèces, mais aussi comment conserver le développement économique et social des populations? Tour d'horizon avec nos invités. Et en studio avec nous, Stéphane Ringuet, responsable du programme commerce des espèces sauvages en Afrique et en Asie au WWF, le Fonds mondial pour la nature. Bonjour.
Bonjour Manel.
Également avec nous, Junie Bonald. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en biologie de la conservation au Muséum d'histoire naturelle et vous avez travaillé en particulier sur les conflits hommes-éléphants en Ouganda. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec Martial Coudérin, directeur de Crédit ONG dans la vallée du Sitatunga, une aire naturelle communautaire protégée au Bénin. Et vous, les voisines, les voisins, appelez-nous, dites-nous quels constats vous faites, quelles expériences de cohabitation avec la faune sauvage ont fonctionné chez vous. On attend vos réactions, vos témoignages, notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins.
C'est sur RFI.
Et des réactions déjà sur notre page Facebook, je vous lis celle de Adoum, qui est à N'Djamena au Tchad, qui nous dit « Autrefois, les hommes s'entendaient mutuellement avec la faune sauvage, mais au fil du temps, avec l'explosion démographique, les habitats naturels diminuent et des espèces disparaissent. À Dakar, Ndak Rancheri, au Sénégal, l'urbanisation est extrême. Les terrains verts ont laissé place aux constructions d'habitations occupées par l'homme. » Et Mirana, à Madagascar, nous écrit « Je constate que les animaux se rapprochent de plus en plus de l'homme, mais c'est peut-être l'homme qui a provoqué cela en causant la destruction de la nature et de leur habitat. On doit prendre nos responsabilités. » Et sur WhatsApp, un message de Daisy à Brazzaville.
Les animaux peuvent approcher vers les points d'eau, mais comme chez nous au Congo, je peux dire précisément au nord du pays, dans la Sanga, quand les animaux se rapprochent vers les points d'eau, c'est de toutes les végétations, comme étant les, surtout les cultures vivrières, des bananes et des piments, comme des éléphants, des buffles, quoi. Ça cause un problème entre l'homme et la faune. Et aujourd'hui, sur les textes des conventions des Nations Unies depuis fort longtemps, n'arrive pas à éradiquer cela parce que quand les animaux détruisent les plantations, par exemple des bananes, des piments, ça n'a jamais été dédommagé. Et puis, ça crée des crises au niveau des localités, des communautés locales en souffrent.
Voilà, déjà quelques thématiques soulevées dans les messages des auditeurs. Stéphane Ringuet, je me tourne vers vous pour essayer de poser un contexte à notre émission. Quand on parle de conflits hommes-animaux, quelle forme ces conflits peuvent prendre ?
Les conflits hommes-animaux peuvent prendre beaucoup de formes, en fait. Il y a autant de formes que de situations, de contextes, que d'interlocuteurs, que ce soit de la faune ou de l'humain. Bien sûr, il y a la première forme que l'on peut imaginer, c'est effectivement l'impact sur les espèces et les milieux, déjà. L'impact sur les communautés locales, l'impact sur l'équité. Pas oublier que c'est aussi des questions d'équité, des questions aussi de dynamique sociale. C'est la question aussi de l'impact économique sur des activités économiques de terrain. Et l'impact tout simplement sur tout ce qu'on pourrait appeler les objectifs du monde durable, puisque c'est d'abord des questions économiques et sociales très fortes qui touchent au bien-être des populations d'abord, bien évidemment, mais pas que. C'est très clair que la question des conflits hommes-éléphants va bien au-delà des questions de conservation, mais embrasse l'ensemble des thématiques qui touchent notre environnement économique, social, culturel, je dirais même, et puis bien sûr économique, écologique.
Ouais. Et ce qui est compliqué peut-être, c'est que justement tous ces axes sont imbriqués, d'où la difficulté de trouver des solutions adaptées en fonction des espèces, des environnements, des politiques, même de gestion, de conservation.
Oui, effectivement, s'il y avait une solution miracle, on la connaîtrait déjà et je pense qu'on l'appliquerait. Donc justement, on est dans un monde complexe. Je crois que vos auditeurs, s'ils ne sont pas trompés, ils ont, à travers leur message, ils ont plutôt parlé des drivers, ce qu'on appelle les facteurs. Hein, pas confondre les facteurs avec les pressions et les impacts. Et la question, c'est qu'il faut poser un bon diagnostic, avoir une très bonne compréhension de ce qui se passe. Et c'est vrai que ce qui se passe sur un territoire donné, avec des personnes données, qui ont un passé connu, une culture donnée, une capacité au fait de vie avec son voisin, puisque c'est une mission des voisins, est très différent d'un autre territoire ou d'un autre espace qui n'aura pas cette même historique. Donc c'est extrêmement important de ne pas arriver avec des solutions toutes faites. D'où l'intérêt, par contre, d'avoir peut-être une approche, par contre, qui permet effectivement de dessiner comment on peut adresser ces problèmes-là.
Alors on va parler justement de ces approches, mais peut-être que dans les grands facteurs, on pourrait en citer un ou deux. Je pense notamment au braconnage, au déplacement d'espèces.
Alors, dans les facteurs, les vrais facteurs, c'est plutôt, pour ça encore une fois, vos auditeurs ne sont pas trompés, c'est démographique, pas s'oublier là-dessus. Démographique, je ne parle pas qu'humain, hein, c'est aussi des espèces sauvages, et qui peut être impacté effectivement par des actions, comme vous l'avez mentionné, de surexploitation des espèces sauvages qui peuvent prendre la forme du braconnage. Ça, c'est quelque chose d'important, c'est les comportements aussi, qui peuvent être un énorme facteur. Ne pas confondre avec, effectivement, les pressions, où là, vous allez avoir la fragmentation du milieu, les corridors qui disparaissent, etc. Et puis les impacts on parlera un petit peu plus, qui sont autres. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les gens sur le terrain font face à des situations extrêmement critiques qui touchent directement leurs biens, leur santé, etc. Et ça embrasse tellement de problématiques différentes que poser un diagnostic, un bon constat, suppose encore une fois de la méthode et des approches un peu cohérentes.
Parce qu'on a entendu déjà dans les messages des auditeurs les conséquences, hein, beaucoup, mais est-ce qu'on pense aussi aux activités générées par l'homme ? Sur la faune.
Généré par l'homme dans quel sens ? Dans le sens pression ?
C'est ça.
Oui, vous avez parlé du braconnage. Bien évidemment, aujourd'hui, inutile de vous préciser qu'il y a énormément de pression sur les ressources naturelles, notamment les espèces sauvages. Il suffit de regarder la liste des espèces menacées de l'UICN. Bien sûr, si on parle de l'Afrique, on pense tout de suite aux grands herbivores.
C'est l'Union internationale pour la conservation.
Exactement,
l'Union internationale.
Exactement. et vous avez là-dedans, bien sûr, la plupart des grands herbivores et des grands carnivores. Et parler des conflits, c'est aussi traiter d'espèces qui ont besoin de beaucoup d'espace. Et aussi d'eau. Et donc, pour protéger ces espèces, c'est protéger les grands espaces. Et comme vous l'avez très bien mentionné, ces espaces sont aujourd'hui en train de se réduire, d'une part, et de se fragmenter pour répondre à des multi-usages. Et donc, augmenter la probabilité de rencontre. Parler de voisinage, pour moi, c'est une probabilité de rencontre et d'interface entre le vivant humain et le vivant sauvage. Et comment on organise cette rencontre nouvelle qui va être de plus en plus forte à l'avenir. Voilà.
Julie Bonald, vous allez nous parler de votre étude, de votre travail sur les éléphants en Ouganda. Mais d'abord, peut-être un mot sur les prévisions du dernier rapport de l'ONU qui sont claires. L'humanité dépend de 50 000 espèces sauvages, une contribution qui est maintenant mise en péril par la crise mondiale de la biodiversité, puisqu'on sait maintenant qu'après 1 million d'espèces de plantes et d'animaux sont menacées d'extinction. Et cette surexploitation menace aussi le bien-être de milliards d'habitants.
Oui, tout à fait. On peut prendre par exemple tout ce qui va être les insectes pollinisateurs, par exemple, avec le fait que la baisse de ces populations-là impacte grandement toutes les populations humaines, du coup, avec une baisse de la fertilité, donc du rendement de fruits, etc. Je ne sais plus trop exactement.
En tout cas, que toutes les nos ressources sont menacées. Tout de suite, je vous propose de prendre la direction du Kenya.
RFI à Nairobi, 89.9 FM.
Le Kenya, qui est touché par une sécheresse sans précédent depuis 3 ans. Les périodes de pluie sont insuffisantes, voire inexistantes dans certaines régions du pays. Et on en parle avec Charlotte Simonard, correspondante à Nairobi. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Charlotte, expliquez-nous, l'impact de cette sécheresse sur les animaux sauvages est bien réel?
Oui, tout à fait. Dans certaines parties du pays, c'est tout simplement l'hécatombe. Sur ces 3 derniers mois, 25 fois plus d'éléphants sont morts par rapport à la même période en temps normal. Et près de 2% des zèbres de grévy, vous savez, c'est une espèce extrêmement rare, eh bien 2% ont également été tués par la sécheresse. C'est absolument dramatique. Sans intervention humaine ou si la saison des pluies qui arrive là dans quelques jours n'est pas suffisante, eh bien la faune sauvage pourrait connaître une crise existentielle majeure. S'alarment les défenseurs de l'environnement.
Et une crise particulièrement dans les parcs nationaux du pays, la situation est très visible.
Oui, c'est le cas notamment du parc d'Amboseli, au sud du Kenya, à la frontière tanzanienne, un parc très prisé par les touristes, au pied du Kilimandjaro, un véritable sanctuaire d'éléphants. C'est vraiment la carte postale par excellence. Et bien sur place, les défenseurs de la faune sauvage s'inquiètent. J'ai pu contacter l'un des membres de la fondation Big Life qui protège le parc et sa faune. Voici ce que me raconte Daniel Olesambou.
Nous vivons la pire sécheresse de ces 40 dernières années. Nous allons perdre beaucoup de bétail, mais aussi beaucoup d'animaux sauvages. Ces deux derniers jours, je peux vous dire que l'effet de la sécheresse est effrayant. Je croise des carcasses de gnous, de zèbres, de buffles, mais aussi d'éléphants partout dans le parc. Ces animaux souffrent énormément. Il n'y a pas de nourriture. Il y a de l'eau, mais pas de nourriture.
Oui, de l'eau, il y en a dans les rivières grâce aux eaux du Kilimandjaro qui fondent, mais sur les terres alentours, plus d'herbe, tout est brûlé, rien ne pousse.
Et est-ce que les rangers sur place constatent un changement de comportement chez certains herbivores ?
Oui, alors ça peut sembler anecdotique, mais c'est très révélateur. Voici ce qu'ils observent désormais. Des élans, vous savez, ce sont les plus grandes antilopes d'Afrique, se battent désormais avec des éléphants pour quelques brins d'herbe fraîche. Ça n'arrive jamais, une confrontation entre ces deux espèces herbivores. Un élan n'a d'ailleurs aucune chance de survie face à un éléphant, mais désormais, ils sont en compétition pour de la nourriture et ils deviennent agressifs.
Également en compétition, Charlotte, les hommes et les animaux ?
Oui, c'était déjà le cas ces dernières années en raison de l'augmentation de la population et de la cohabitation de plus en plus compliquée avec les animaux sauvages. Mais depuis quelques mois, ça devient ingérable, me dit-on à Amboseli, c'est l'escalade. Écoutez à ce propos Daniel Olesambou de la fondation Big Life.
La terre est lourdement dégradée. Il n'y a même plus d'herbe sèche. À certains endroits, la terre est complètement à nu. Cela veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de confrontations entre les animaux sauvages, les populations et leur bétail. Les troupeaux deviennent très faibles, ce qui fait le bonheur des prédateurs qui peuvent facilement les tuer et les manger. En même temps, les éléphants détruisent des maisons et des plantations partout où ils peuvent trouver à boire et à manger.
Voilà, résultat, les communautés tuent les félins qui mangent leurs troupeaux et les éléphants qui piétinent leurs champs. Alors en général, ils les empoisonnent à l'aide de flèches tirées à l'arc ou ils installent des pièges au sol. Si l'ère du braconnage est quasiment terminée ici au Kenya, c'est désormais le partage du peu de ressources qui menace ces animaux sauvages.
Merci Charlotte Simonard, correspondante de RFI au Kenya, et on vous souhaite une belle journée à Nairobi. Une situation, Stéphane Ringuet, qui fait écho peut-être à celle du Zimbabwe, qui a commencé à déplacer plus de 2500 animaux sauvages d'une réserve vers une autre pour les sauver de la sécheresse, et où l'une des solutions avancées a été pour réduire le nombre d'animaux sauvages, a été malheureusement l'abattage, mesure contre laquelle des groupes de conservation protestent évidemment. Est-ce que vous avez une réaction ? Est-ce que c'est une solution ?
Comme ça a été mentionné, la solution, ça serait d'avoir un espace partagé pour tous qui permette de répondre aux besoins et aux aspirations de l'ensemble des groupes, que ce soit la faune sauvage ou l'humain. Et donc, faire de la translocation, de l'abattage, etc., c'est une réponse, certes, qui peut peut-être, sur le moment, soulager des populations, des préoccupations, parce qu'elles sont effectivement, les troupeaux peuvent envahir leurs troupeaux ou causer des dégâts importants. Mais encore une fois, attention de ne pas traiter le symptôme, mais bien traiter la cause. Et je crois qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des symptômes. Là, tout ce que vous avez dit, ça porte beaucoup sur les symptômes, sauf certains intervenants. Parler du climat à l'instant, là voici un driver, voici un facteur important. Le climat a un impact sur la ressource en eau, sur effectivement, là actuellement en Boseli, sur la question de disponibilité en végétation pour répondre aux besoins des herbivores notamment. Donc des conflits de voisins à voisins entre les herbivores eux-mêmes. Vous voyez que les conflits, c'est pas que homme-humain, c'est faune-faune, vous en avez parlé à l'instant. En fait, c'est perdant-perdant à tous les coups à ce niveau-là. Donc la question, c'est pas tellement est-ce qu'on a, on traite le bon symptôme, le symptôme, c'est assez facile, on les voit, on l'identifie, encore faut-il. Non, la question, c'est la cause. Et le vrai sujet, il est là. Et donc, pour apporter une bonne réponse, encore faut-il avoir fait, encore une fois, une bonne diagnostic.
Est-ce que, du coup, ça veut dire que les ravages du changement climatique, c'est devenu la principale menace sur la faune sauvage ?
La principale, je ne sais pas. Je dirais que les menaces, et c'est assez connu sur la faune sauvage, hélas, multifactorielle, il y a énormément de menaces, je ne veux pas les lister ici. Mais c'est clair que le climat, les changements climatiques, c'est un sujet. La surexploitation des espèces, c'est un sujet, on le sait. Les questions de conversion des terres, c'est un sujet majeur, il ne faut quand même pas l'oublier. On parle d'espace, de voisinage. Donc on parle de ça, question de pollution, d'espèces envahissantes, etc. Il y a énormément de menaces qui pèsent sur le vivant aujourd'hui et le climat ne fait que se rajouter, voire surexposer les autres menaces et les aggraver encore plus. Donc c'est ça.
Alors on va parler des solutions dans un instant, mais avant, un message d'un voisin à Pointe-Noire.
Certains animaux affamés, à la recherche de quoi manger, s'attaquent aux récoltes en dévastant des champs tout entiers. Et c'est ce qui s'est passé dans notre pays, plus exactement au nord de Brazzaville. Les éléphants qui se sont évadés de leur lieu d'habitation pour s'attaquer aux champs et aux hommes et ont fini par détruire tout sur leur passage. Merci beaucoup.
Julie Bonald, vous avez travaillé sur le projet Faune-Forêt-Population en Ouganda. Parlez-nous de cette étude. En quoi elle consistait et qu'est-ce que vous avez constaté en termes de conflits humains-animaux ?
Donc effectivement, j'ai réalisé une thèse doctorale au Muséum national d'histoire naturelle qui était intégrée dans ce projet, le projet Fofopopu. Et en fait, donc l'objectif de mon travail doctoral, c'était de vraiment comprendre à un niveau local quels étaient le conflit dans cette zone. Donc j'ai travaillé dans l'extrême nord du parc national de Kibale en Ouganda, et donc comprendre le conflit entre les humains et les éléphants. Et donc dans le but de pouvoir proposer soit des améliorations des mesures déjà en place, soit des solutions qui ont été... qui sont efficaces dans d'autres régions d'Afrique ou d'Asie et pouvoir être mises et adaptées au niveau local.
Donc c'était un travail à une échelle vraiment très locale, si je comprends bien, puisque vous étiez dans une zone du parc qui est devenue parc national d'ailleurs il y a une trentaine d'années. Et qu'est-ce que vous avez constaté comme conflit ?
Alors ce qu'on remarque, c'est que donc, le parc national de Kibale, c'est un parc forestier avec une forêt très dense. Et ce qu'on remarque, c'est que les populations locales sont installées très, très proches de cette forêt. Et que, par exemple, on observe des champs donc, de maïs, donc, voilà, principalement des cultures vivrières, qui sont parfois moins d'un mètre des premiers arbres, sans qu'il y ait forcément de barrières qui délimitent la fin du parc. Et ce qu'on observe, c'est effectivement l'entrée dans ces champs de nombreuses espèces animales. Donc là, je vous parlais effectivement de l'éléphant qui représente en tant qu'espèce imposante, dangereuse, on va dire, qui cristallise un peu le conflit. Mais on observe également de nombreux petits singes, des babouins, des chimpanzés.
Mais qui sont mieux tolérés que les éléphants ?
Pour certains, oui. Par exemple, c'est vrai que les chimpanzés sont mieux tolérés, ils font moins de dégâts.
C'est
et puis
pas les
je
mêmes
pense
dégâts,
que
ouais.
Ils sont plus proches de l'homme physiquement et donc ils sont plus, voilà,
c'est un
plus,
autre
plus appréciés. Mais par exemple, les babouins, qui sont également des primates, on observe quand même un fort ressentiment des populations à leur égard.
Alors, quelles mesures vous avez expérimenté avec les agriculteurs avec qui vous avez travaillé dans des villages, des fermiers ? Vous nous avez expliqué. Quel type de mesures pour repousser la faune ?
Alors, on va dire qu'il y a trois catégories de mesures. Donc, ce que nous, on a appelé les mesures préventives, qui sont des mesures passives dans le sens où elles ne demandent pas la présence des agriculteurs, des humains, pour repousser la faune sauvage.
Parce que l'un des défis, c'est que souvent les animaux viennent de nuit.
C'est ça.
Donc les agriculteurs qui déjà travaillent la journée doivent en plus rester éveillés la nuit pour défendre, repousser les animaux.
Oui, exactement. Par exemple, les babouins viennent de la journée, mais les éléphants viennent principalement la nuit, voire presque exclusivement la nuit. Et on a remarqué que les chimpanzés avaient modifié leur comportement avec des comportements nocturnes justement pour venir dans les champs. Et donc ces mesures préventives, on va avoir par exemple, c'est principalement des barrières. Donc on va par exemple avoir le fait de creuser des tranchées. Donc ce sont des tranchées de à peu près 2-3 mètres de large sur 2-3 mètres de profondeur qui sont très efficaces si elles sont entretenues contre les éléphants, puisque les éléphants en fait ne peuvent pas sauter. Donc qui sont moins efficaces contre les primates qui peuvent sauter. Contre les éléphants, on a également on a pu voir la mise en place de clôtures de ruches. Donc en fait, ce sont des ruches qui sont suspendues à des câbles et qui sont reliées entre elles également par des câbles et donc qui forment une clôture. Et donc quand l'éléphant traverse cette clôture, il va faire bouger en fait les ruches. Donc les abeilles vont sortir et donc vont...
Parce que l'éléphant a peur du bruit.
Exactement. En fait, on s'est rendu compte que les éléphants avaient peur des abeilles, ne s'approchaient pas par exemple des arbres où il y avait des ruches sauvages. Et c'est comme ça que c'est Lucy King qui a découvert ça et qui a mis en place toutes ces...
Au Kenya.
Toutes ces barrières de ruches au Kenya.
Alors je crois qu'il y a une dernière façon de repousser, enfin en tout cas ce qu'on appelle zone tampon.
Exactement, donc les zones tampons. Dans le nord du parc de Kibale, les zones tampons sont principalement des plantations de thé. Et on observe qu'elles sont très efficaces. Alors déjà parce que le thé, c'est quand même un arbuste qui est très... Là, en tout cas, dans ces plantations qui étaient plantées de manière très serrée. Donc en fait, les éléphants ne peuvent pas traverser. Et effectivement, on a un village entier. Donc moi, j'ai travaillé dans 6 villages autour de cette portion du parc. Et il y a un village qui était à une distance de 1 km et protégé par 1 km de thé. Et il n'y avait aucun éléphant qui venait dans le centre du village grâce du coup à cette portion de thé. Mais après, les zones tampons, ça peut être en fait simplement des plantations, des cultures qui sont peu appétantes.
Et l'important, c'est aussi, j'imagine, de combiner les mesures, puisque les animaux apprennent vite. Et ça, vous allez nous en parler dans un instant. Vous restez avec nous, on se retrouve juste après Zebras and Airplanes d'Alicia Keys sur RFI.
Voisins et les voisines, je suis Chris depuis Libreville au Gabon. Alors nous, le conflit homme-faune, c'est un sujet qui est réellement d'actualité ici chez nous. Nous avons d'un côté les éléphants qui en quête de nourriture vont quitter l'intérieur des forêts pour se rapprocher des zones de vie des humains qui vont partir détruire les populations et des fois tuer certains riverains qui pourront trouver dans leur plantation. Et nous avons d'un autre côté les populations qui voient leurs ressources à chaque fois être détruites. Cela donne lieu des fois derrière à des représailles des populations qui vont parfois abattre les éléphants. Donc cela donne lieu à une petite guerre qui, pour ma part, n'a pas encore éclaté du fait que l'éléphant est une espèce protégée au Gabon. Toutefois, dans certaines zones, le conflit semble avoir diminué du fait que l'État, avec l'Agence nationale des parcs nationaux, ont installé des barrières électrifiées pour créer une zone de frontière entre les zones où les humains ont l'autorisation de faire leur plantation et garder les éléphants dans la forêt pour qu'ils ne viennent pas détruire les plantations humaines.
Vous écoutez 7 milliards de voisins sur RFI, journée mondiale des animaux, et on parle de la cohabitation entre l'humain et la faune sauvage en votre compagnie. Stéphane Ringuet, responsable du programme commerce des espèces sauvages en Afrique et en Asie au Fonds français pour la nature, et Julie Bonald, docteur en biologie de la Conservation Muséum d'Histoire naturelle de Paris. On en parlait, on le comprend aussi dans les témoignages d'auditeurs. Les animaux s'adaptent, il faut casser les routines, ce qui demande beaucoup d'énergie, peut-être de moyens, de temps. Aussi, Stéphane Ringuet.
Oui, ça demande surtout d'être extrêmement flexible, adaptatif face à une situation qui est extrêmement complexe, dynamique et émotionnelle. C'est ce sujet très émotionnel qui impacte clairement le vivant et le vivant humain. Et donc ça suppose effectivement de mettre en place, encore une fois, peut-être une approche qui permet d'embrasser toute cette complexité, même si elle peut ensuite s'appliquer au cas par cas, en fonction des situations, etc. Et c'est là-dessus sur lequel il faut beaucoup travailler et sur lequel on travaille actuellement, OWF et d'autres organisations là-dessus.
Est-ce que vous avez un exemple, justement?
Ben, un exemple, une approche, c'est une méthode, c'est une vision des choses. Et ce qui est important, si vous voulez, on a développé ce qu'on appelle l'approche SAFE, et je vous invite à aller voir comment ça fonctionne. Mais en gros, l'idée, c'est comment faire en sorte qu'il y ait une meilleure protection de la santé des gens et de leur bien-être, de la faune sauvage, de l'habitat, bien évidemment, de leur bien, mais aussi quel est le suivi qu'il y a derrière. En répondant à quatre principes directeurs qui sont essentiels, il faut avoir une vision à long terme de ce que c'est. Une vision à long terme sur un espace géographique défini, assez large, qui ne se limite pas à un village, à une communauté de villages, mais à un paysage, voire plus. Ça, c'est extrêmement important. Avoir les capacités de mesurer ces impacts, c'est extrêmement important. Si on n'a pas une baseline très claire qui permet de mesurer ça, ça ne sert pas à grand-chose. Arriver à mettre en place un ensemble de dispositions qui permettent, si vous voulez, d'avoir ce que vous appelez la cohabitation, j'appelais plutôt la coexistence, c'est-à-dire une dynamique, si vous voulez, assez continue, qui permet de répondre à la fois aux besoins des communautés locales, des gens sur place, mais aussi de la faune sauvage, dans la durée, et qui soit inférieur au seuil de tolérance. Parce que la coexistence, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes. La coexistence, ça veut dire qu'on est au-dessous du seuil de tolérance et qu'on peut vivre ensemble. C'est le vivre ensemble. Et ça, c'est essentiel. Demain, quel sera le monde si on n'arrive plus à vivre ensemble? Et un des points essentiels aussi, c'est le quatrième, en gros, c'est que définir un système, une approche comme celle-ci, suppose une adhésion très forte de l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire des personnes, que ce soit le politique ou les personnes au niveau local. Ça, c'est essentiel. Donc moi, je ne parlerai pas d'un projet, je parlerai bien d'une stratégie au sens noble du terme, c'est-à-dire une vision partagée sur un territoire assez large avec toutes les parties prenantes décisionnaires à tous les niveaux. Et c'est parce qu'on partage un territoire commun, une vision commune, un espoir commun qu'on résoudra des problèmes communs. Et non, voilà. Donc c'est, encore une fois, rien ne s'oppose, c'est juste se changer de perspective et de hauteur.
Donc s'adapter et prendre en compte les besoins de la faune et des hommes. Je vous propose un extrait d'Arte reportage au Kenya, se soucier des hommes pour sauver la faune.
Chez les Maasai, ce sont les lions qui posent problème, menaçant le bétail.
C'est la trace d'un jeune lion. Quand il y a surtout des jeunes dans la troupe, la mère voudra chasser tout le temps pour les nourrir. Et le bétail, c'est la proie la plus facile. Donc c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Les lions deviennent plus nombreux, mais ça va augmenter les conflits.
Prévenir les conflits entre les hommes et les lions, tel est le travail de ces Simba scouts. Et pour cela, ils doivent suivre chaque jour le déplacement des prédateurs. Certains lions ont été équipés de colliers GPS.
Le signal est bien fort là.
Hier, tueurs de lions, ces guerriers Maasai les traquent aujourd'hui pour leur bien. Ils avertissent les gardiens de troupeaux de leur présence et éloignent les lions si nécessaire.
On fait comme si on chassait les lions pour de vrai avec nos lances. Les lions croient qu'on va les tuer comme par le passé et ils s'enfuient.
Les plus âgés ont tous tué des lions selon la coutume aujourd'hui interdite.
J'ai été élevé dans l'idée que le lion était notre grand ennemi. Quand j'étais enfant, j'étais berger et j'avais appris qu'on ne devait pas tolérer les lions, il fallait les tuer. J'ai tué des lions pour avoir un nom prestigieux de guerrier et attirer les filles. Aujourd'hui, j'ai compris que nous avons tous à gagner en protégeant les lions. Moi-même, j'ai pu m'acheter 5 vaches avec mon salaire.
C'est vraiment difficile. Il faut supplier les gens de ne pas tuer le lion alors que la carcasse est là et le lion pas loin. Ça crée beaucoup de tensions. Parfois, les gens nous attaquent. Mais nous ne répliquons pas parce que notre rôle, c'est d'établir la paix entre les lions et eux.
Sauver les animaux sauvages sans se soucier des hommes est voué à l'échec. Les ONG protégeant la faune l'ont compris. La plupart proposent désormais des compensations financières pour la perte du bétail.
Je peux vous assurer que les pertes que les gens subissent sur leurs terres à cause des prédateurs sont énormes. Donc le peu d'argent que nous donnons, c'est pour leur dire qu'on est désolé et qu'ils abandonnent toute idée de représailles.
Nelson Olereya critique la façon dont on a protégé la faune depuis l'ère coloniale.
L'erreur faite dans le passé a été de concevoir la préservation de la nature comme une forteresse excluant les populations locales. Par exemple, le parc naturel de Masai Mara brasse des milliards de dollars, mais localement, les gens ne touchent pratiquement rien sur ces bénéfices. Pourquoi la pauvreté est-elle toujours aussi flagrante à moins d'un mètre de l'entrée du parc naturel? Pourquoi les femmes se battraient autant pour brandir leurs babioles aux touristes si on s'était préoccupé de régler la pauvreté? Donc il faudrait faire davantage pour que les communautés locales apprécient la présence de la faune sauvage sur leurs terres. Pour nous, c'est crucial si l'on veut résoudre le conflit entre les hommes et les animaux. Si les habitants bénéficiaient vraiment de la faune, il y aurait moins de conflits.
Parole de Maasai qui s'attache à apaiser les conflits avec la faune sauvage. On l'entend des initiatives qui prouvent que pour sauver la faune, il faut aussi se soucier des habitants. Stéphane Ringuet.
Oui, c'est même essentiel, c'est au cœur. Moi, je dis toujours que l'aménagement d'un territoire, c'est d'abord l'aménagement des relations entre les hommes. Il ne faut jamais oublier ça. C'est la base, c'est un fondement sociologique fondamental. Nous sommes des humains, nous sommes doués de relations, nous avons besoin de ça, avec notre milieu aussi. Donc c'est du bon sens, et heureusement que c'est comme ça, heureusement que c'est comme ça.
Julie Bonald, quel ressenti vous avez pu noter, vous, de la part des agriculteurs avec lesquels vous avez travaillé?
Déjà une très forte colère effectivement vis-à-vis de la faune et parfois également vis-à-vis des autorités des parcs qui pour eux ne font pas assez pour protéger, les aider à protéger leurs champs, leur culture. Là on a dans le documentaire, on entendait le système des compensations. En Ouganda, c'est légèrement différent. Donc, ce n'est pas une compensation liée aux pertes qui sont constatées, mais c'est ce qu'ils appellent le revenue sharing, qui est en fait une partie des entrées...
Des
entrées du parc qui sont reversées aux villages et aux communautés qui sont en bordure de ce parc. Et ça va leur permettre, par exemple, soit de pouvoir financer des protections pour leur culture, telles que des tranchées, des clôtures de ruches, etc. Soit, un moyen de subsistance alternatif. Donc, par exemple, le fait de développer l'élevage de chèvres, de moutons, etc.
Comment protéger la faune et les populations locales? C'est un défi aussi de plus en plus urgent au Bénin, qui est considéré par les Nations Unies comme l'un des pays du continent africain les plus vulnérables au changement climatique, notamment à cause de l'érosion côtière. Tout de suite, on prend la direction de Cotonou.
RFI à Cotonou, 90 FM.
Et on retrouve Martial Coudérin. Bonjour.
Bonjour, Raphaël.
Vous êtes directeur du Crédit ONG dans la vallée du Sitatunga. C'est un parc naturel communautaire, une aire protégée. Martial, d'abord en termes de faune sauvage, racontez-nous quelle est la particularité de la vallée du Sitatunga. Qu'est-ce qu'on y trouve?
Alors, dans la vallée du Sitatunga, c'est un parc naturel communautaire que notre organisation a initié depuis maintenant une quinzaine d'années. Et même si nous ne sommes pas en présence des grands animaux, des grands fauves comme le lion, les éléphants, on retrouve quand même le Sitatunga qui a donné son nom à ce parc. Et on retrouve également des crocodiles, des serpents, des singes, des civettes, des genettes, qui sont quand même des animaux qui ne sont pas sans conflit avec les hommes.
Alors le Sitatunga, pour avoir eu la chance d'en croiser, c'est une antilope aquatique qui est menacée. La vallée du Sitatunga, c'est plus de 60 000 hectares, il me semble, où vivent 400 000 personnes. Pour bien comprendre les enjeux, de quoi les populations vivent dans la vallée du Sitatunga, Martial?
Alors, les populations dans la vallée du Sitatunga vivent à plus de 70% de l'agriculture, de la pêche et de la chasse. Et donc, ils cultivent, ils font de l'agriculture de subsistance. Ils cultivent du maïs, du manioc, de l'ananas, de la papaye, du haricot. Et toutes ces cultures, généralement, sont en bordure de ce vaste marécage qui représente environ 30% du territoire du parc et qui ne sont pas sans difficultés avec les animaux sauvages dont je viens de parler.
Alors Marcel, votre ONG est née dans l'idée de vous associer avec la population locale et pour trouver des solutions durables à la conservation de la nature. On parlait justement de durabilité et aussi au développement économique des populations. Vous avez mis en place un système de gestion particulier dans la vallée du Sitatunga. Expliquez-nous.
Oui, alors en matière de gestion participative, c'est vrai que l'approche de gestion de la vallée du Sitatunga est une approche communautaire. Nous sommes partis avec des associations au niveau local pour arriver, depuis l'année dernière, à mettre en place une communauté de communes avec l'implication forte des élus locaux, c'est-à-dire des maires des trois communes du sud Bénin qui sont partie prenante de cette initiative, c'est la mairie d'Abomey-Calavi, de Zé et de Soava.
Et alors justement, qu'est-ce que vous avez défini avec les communautés pour la survie des espèces sans complètement couper les habitants de leurs moyens de subsistance?
Oui, ça c'est vraiment encore un gros souci parce que il est difficile de demander à un villageois ou un membre de la communauté qui est victime donc des conflits des animaux de pouvoir préserver ces animaux-là. Donc, aujourd'hui, nous, notre solution, c'est de pouvoir dire qu'il faut quand même prévenir. Et prévenir, c'est un peu amener les communautés à faire des choix et à s'éloigner déjà, dans la mesure du possible, de ces lieux de menace avec les animaux sauvages.
Mais est-ce que vous avez des exemples, Martial Coudérin, concrets, par exemple, sur les règles de chasse? Il me semble que c'est une mesure que vous avez mise en place.
Pardon?
Vous avez mis, je crois, en place des règles de chasse que vous avez établies avec les communautés.
Oui, bien sûr, on a mis en place ce qu'on appelle un plan de chasse où il y a des espaces chez lesquels on ne peut pas chasser et il y a des espèces qu'on ne doit pas chasser. Et ceci en lien avec la réglementation nationale en la matière. Cela voudrait dire que il y a des animaux qui sont inscrits en liste rouge locale, si on peut parler ainsi, et qui vont se retrouver, par exemple, dans le champ de gombo, parce que le gombo, c'est une culture qui est très appréciée par les Sitatunga. C'est une culture qui va bien produire lorsqu'on va l'installer en bordure de marécage. Et donc, forcément, les communautés vont installer ces champs généralement en bordure de marécage. Et c'est vraiment lorsque les sensibilisations ont évolué et que les populations de Sitatunga ont augmenté dans la vallée, on constate régulièrement les populations se plaignent de ce que les Sitatunga viennent goûter les feuilles de gombo. Et donc cela crée des manques à gagner pour ces populations. Il y a également les civettes qui passent dans les villages les soirs dans la nuit pour ravager, dévorer les poules. Comme vous le savez, c'est des élevages en divagation qui sont faits dans les villages autour du parc. Et par rapport à ça, cela constitue des conflits permanents entre les populations et ces animaux-là. Et le dernier élément de conflit, c'est quand même aussi ce sentiment d'incertitude, d'insécurité, j'allais dire, pour toutes les personnes, pour tous les riverains à proximité des espaces naturels comme la vallée du Sitatunga, de se dire que nous sommes à côté des animaux sauvages qui peuvent piller, non seulement piller nos ressources, mais qui peuvent aussi porter atteinte à notre vie. Et donc, le seul objectif, c'est de pouvoir mettre un terme d'exterminer en fait ces espèces-là, parce qu'il y a tellement une peur et permanente. Et aujourd'hui, il est question aussi de pouvoir les sensibiliser par rapport au fait que c'est pas tous les animaux systématiquement qui sont dangereux. Ce n'est pas tous les animaux qui sont prédateurs de leurs ressources. Et que il faudrait apprendre à mieux connaître ces animaux et à s'organiser aussi en termes donc de positionnement et de mode d'élevage pour pouvoir éviter un tant soit peu des menaces, même si cela nécessite quand même des investissements qui n'ont pas souvent.
Donc l'un des défis, c'est aussi de faire changer les habitudes et les modes de vie qui sont transmis depuis des générations. Est-ce que l'État vous aide, Martial Couderin, soutient ces initiatives au Bénin?
Alors pour le moment, je dirais que nous avons un soutien institutionnel par rapport à tout ce que nous faisons, parce que si nous avons les élus qui nous accompagnent et qui participent à nos réunions et qui ont signé des actes, je pense qu'il serait ingrat de dire que l'État ne nous accompagne pas au niveau institutionnel, même si on aurait besoin d'avoir un appui plus important et peut-être pourquoi pas des appuis aussi financiers pour répondre un peu à ces besoins-là, parce que lorsque ces conflits arrivent, comme l'ont déjà dit les invités et plusieurs autres qui sont intervenus dans cette émission, il est important d'évaluer les dégâts et de pouvoir dédommager ceux-là qui sont
les populations
de ces dégâts.
Merci infiniment d'avoir été en ligne avec nous, Martial Couderin, directeur du Crédit ONG dans la vallée du Sitatunga au Bénin.
7 milliards de voisins,
on existe ensemble.
Stéphane Ringuet, on l'a entendu à l'instant, les ONG ne peuvent pas gérer seules. C'est aussi le rôle des politiques de prendre en charge cette question de la coexistence des espèces, surtout en pleine urgence climatique.
Oui, c'est l'affaire de tous. C'est pas l'affaire des ONG, c'est l'affaire de tous, encore une fois, et notamment des politiques. Et c'est extrêmement important que ce soit adressé. Et un des enjeux forts est sans doute de mettre en place et de faire en sorte que l'ensemble des dispositions visant à atténuer les conflits, à gérer ces questions de conflits, soient adressées au sein des politiques publiques, au sens global du terme, à l'échelle du pays. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a des politiques de conservation au niveau des paysages, mais ça doit aller au-delà des questions de conservation. Comment c'est adressé au niveau sectoriel? Comment c'est adressé à tous les niveaux? Comment ces politiques adressent les facteurs qui génèrent ces conflits-là? Je parle bien des facteurs, je ne parle pas des impacts, je ne parle pas des pressions, je parle bien des facteurs. Et ça, c'est extrêmement important. Si les politiques publiques ne prennent pas la dimension de cette problématique-là, que sont les conflits, alors on n'arrivera pas à une situation de coexistence. Or, c'est majeur. Quelqu'un a cité tout à l'heure le mot de paix. Oui, c'est important la paix et la sécurité. Je crois qu'on aspire tous à ça. Et si on ne traite pas cette question-là et si on ne l'adresse pas au niveau des politiques publiques qui sont transversales, qui ne sont pas uniquement, qui ne relèvent pas uniquement des questions de conservation sans sensu stricto, à ce moment-là, on n'aura pas compris comment on gère ces questions de conflit. Les outils, les boîtes à outils, ça ne sert à rien si on n'a pas de politique stratégique plus globale.
Et ça s'adapte sur tous les outils.
Exactement, ça s'adapte. Exactement.
Est-ce qu'il existe justement des stratégies établies ou même inscrites, allez, jusque-là, dans la loi, dans certains pays qu'on peut noter?
Oui, il y a des efforts qui sont faits dans certains pays et après, c'est leur mise en œuvre. On peut être très bien intentionné, on peut avoir des très bonnes politiques, des très bonnes, etc. Après, c'est la question de la mise en œuvre. C'est pour ça qu'il faut intégrer l'ensemble de la chaîne. Il y a des exemples en Namibie où il y a eu des efforts pour essayer, effectivement, mais l'organisation en Namibie est un peu différente de celle, par exemple, on parle beaucoup ici d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest, est un peu différente, où la notion, effectivement, de responsabilisation, la nécessité, effectivement, de voir comment, effectivement, le partage des bénéfices peut aussi être fait. Je voudrais souligner juste un point ici qui est extrêmement important, la question des conflits, c'est peut-être le ressentiment. Quelqu'un a parlé beaucoup de ressenti, d'insécurité. C'est fondamental. On ne peut pas aujourd'hui adresser la question de coexistence si d'une part on n'a pas des mesures d'atténuation, c'est très bien, mais surtout on n'a pas un changement du comportement humain. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut changer de comportement humain? C'est pas, les études globalement montrent que c'est pas uniquement parce qu'on indemnise qu'on met des compensations, même si c'est hyper important pour répondre à une aspiration, à des demandes locales, momentanées, urgente, ça t'acclore. Le vrai sujet, c'est le sentiment d'insécurité, c'est l'hypervigilance, c'est le fait qu'on est obligé de passer beaucoup d'énergie sur autre chose que ce qu'on pense qu'il faut faire. Si on perd quelqu'un, ben il faut compenser par des revenus, il faut aller loin de sa ville pour aller chercher un travail. C'est les enfants qui vont faire autre chose qu'aller à l'école. C'est la femme qui va faire autre chose que ce qu'elle faisait au départ et aller dans les champs. Vous n'avez pas la nuit, l'insécurité. Et ça, c'est le vrai driver, c'est ça qui font que les gens, effectivement, ne supportent plus cette situation et donc vont cristalliser à travers l'éléphant, effectivement, un symbole qui fait qu'il faut abattre l'éléphant parce que ça, c'est l'origine de tout. Donc ça, c'est vraiment important que les politiques, pour revenir à votre question politique, ça veut dire qu'on ait une compréhension fine et globale de tout ça et que toutes les politiques, par secteur notamment, au niveau des facteurs, adressent et intègrent la question de comment on gère ça.
Et ça veut dire quoi? Qu'on ne pense pas à cette coexistence sur le long terme? Ça veut dire qu'on ne communique pas entre les ministères en charge, par exemple, les acteurs de terrain? Il n'y a pas une stratégie globale sur
le long terme. C'est une vision commune sur l'utilisation partagée d'un territoire, d'une part entre différences d'intérêts et usagers d'un côté, mais aussi par rapport à la faune sauvage. On ne parle que de la faune sauvage, mais la faune sauvage, c'est d'abord des habitats. Donc ce sont des forêts. Donc c'est des aires protégées. On a parlé aussi de buffer zone, de zones contiguës. C'est des zones de village, etc. Comment on voit la vision du développement d'un territoire aussi grand? Et c'est un peu de la prospective et de l'aménagement qui doit en quelque sorte modéliser quel est l'impact de nos choix politiques sur effectivement la dynamique je dirais des populations qui vivent sur ce territoire, mais aussi des espèces sauvages comme les éléphants. Et il faut savoir que les impacts, ils sont réels à court terme ou à moyen terme.
Donc politiser peut-être cette histoire, le droit à l'environnement en fait, tout simplement. Les voisins, les voisines, notre émission touche à sa fin. Merci à vous deux pour cet éclairage. Julie Bonald, docteur en biologie de la conservation au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Merci Stéphane Ringuet, responsable du programme commerce des espèces sauvages en Afrique et en Asie au WWF. Et merci à toute l'équipe de l'émission, à la réalisation aujourd'hui Nicolas Benita. Et demain, vous retrouverez Emmanuel Bastide à Dakar pour une émission sur les villes africaines, comment prendre le tournant de la mobilité durable. Rendez-vous à 10h10 en temps universel. Et ici, dans quelques instants, le journal sur RFI. Et nous, on se quitte avec Wild Horses des Rolling Stones. Bonne journée sur RFI. It's easy to do. The things you wanted, I bought them for you. Graceless lady, you know who I am. You know I can't let you slide through my hands. Wild horses to show me the same.
7 milliards de voisins, c'est fini.